11h15 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Et c'est l'heure d'aller rejoindre, comme on le fait pas mal chaque semaine, l'ami Georges Mercier, analyste politique. Salut Georges.
Salut Max.
Comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ça va bien. Évidemment, on se parle, comme je le disais, pas mal chaque semaine. Puis à l'international, on n'a pas eu beaucoup de breaks depuis le début de l'année. Il y a eu le Venezuela, il y a eu Cuba un bout. Là, on est beaucoup, évidemment, dans ce qui se passe du côté de l'Iran avec les frappes américaines, les frappes d'Israël. Et là, au départ, Trump parlait d'un 4 à 5 semaines de conflit. Hier, le président américain a parlé d'un conflit qui était quasiment terminé en Iran. Est-ce que tu y crois vraiment ou ça ressemble à une stratégie de contrôle des marchés boursiers, on va le dire de même?
Je pense que la vérité, Max, c'est que lui-même ne le sait pas. Je pense que ce qui s'est produit, c'est qu'au début de l'année, on a eu cette opération-là qui a été spectaculaire au Venezuela, puis qui a plutôt bien tourné pour les Américains, puis ça a donné beaucoup d'hubris, beaucoup d'ambition démesurée. En fait, Trump, par rapport à ça, c'est un peu comme une équipe de hockey qui aurait une victoire au début de la saison, puis qui se dit après, je peux tout gagner à partir de maintenant, puis c'est certain que je vais avoir la Coupe Stanley, sans nécessairement s'être préparé à l'avance. Et là, ce qu'on voit en Iran, c'est qu'on est rentré avec des missiles et des avions. On a frappé, on continue à frapper, des cibles militaires en veux-tu, en voilà, mais on n'a pas nécessairement de plan pour la suite. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'alors que les marchés réagissent, on voit les fluctuations du baril de pétrole, mais puis on sait que ça va causer des problèmes éventuellement sur le marché intérieur, mais Donald Trump cherche une porte de sortie. Mais puisqu'il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il veut réaliser là-bas, sa porte de sortie, elle n'est pas claire pour l'instant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incertitudes.
Trump qui menace l'Iran de frapper 20 fois plus fort en cas de blocage du détroit d'Hormuz. Présentement, c'est quoi la situation? Parce que monsieur, madame, tout le monde écoute la radio, puis là, ça demande, OK, mais là, il n'est pas déjà bloqué le détroit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les prix du baril augmentent tant que ça s'il n'est pas bloqué encore? La réalité, c'est que... il est bloqué, mais pas officiellement. C'est juste que, mettons, que ça serait risqué de passer par là. Je résume-tu bien grossièrement?
Ben, essentiellement, c'est ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est dans une guerre en ce moment. Et aussi bien du côté iranien que du côté américain, on a intérêt à vendre une version de la réalité qui va avec nos intérêts. Il faut comprendre qu'il y a 20 % des flux de pétrole mondiaux qui passent par le détroit de Hormuz. Évidemment, les Iraniens ont intérêt à dire « il est bloqué, nous allons le bloquer ». Je suis d'accord avec toi, Max, c'est pas clair en ce moment. Mais ils ont intérêt à dissuader les gens d'y passer, parce que comme ça, on crée un choc énergétique qui, on l'espère, pourrait infliger suffisamment de douleur au président américain pour qu'il rétropédale. Pour qu'il chicken out de cette guerre-là. Du côté américain, on a intérêt à dire « c'est pas tout à fait le cas » et s'ils le font pour de vrai, on va les frapper. Le problème pour les États-Unis en ce moment, c'est que les cibles militaires, ils en ont frappé à peu près 4000, de ce qu'on comprend. Il n'y en a pas une infinité. Puis le gros problème en Iran, c'est la production de drones. Et c'est les usines qui produisent ces drones-là, elles sont pas facilement localisables, elles ne sont pas immenses, on ne peut pas toutes les détruire. Donc, peu importe ce qui se passe, l'Iran conserve une capacité de nuisance. La seule vraie manière par laquelle on pourrait garantir la sécurité de cette région-là du monde, de ce détroit de Hormuz, c'est si les Américains rentrent physiquement sur le territoire, provoquent un véritable changement de régime et installent un nouveau gouvernement qui serait plus sympathique à nos intérêts, aux intérêts américains. Le problème, encore, c'est que Donald Trump ne veut pas faire ça. Et il y a le traumatisme des guerres du Golfe qu'on a connu, des guerres au Moyen-Orient. Et donc, ce n'est pas une option valide. Donc, on a comme une escalade rhétorique. On verra ce qui va se passer. Il y a deux scénarios, deux choses que les Américains pourraient faire dès maintenant qui pourraient peut-être débloquer un peu le conflit. Le régime iranien posséderait, selon les analystes, environ 400 kg d'uranium enrichi, avec lequel il pourrait faire une bombe atomique. Donald Trump pourrait envoyer des forces spéciales américaines en Iran saisir cet uranium-là. Et ça, ce serait une vraie victoire. Parce qu'il pourrait dire, regardez, là, l'Iran va être à effectivement plusieurs années d'une bombe atomique. Et là, il pourrait dire, c'était mon ambition, j'ai réalisé ça. L'autre option, là, ce serait une escalade majeure. Ce serait de saisir une île qui se situe dans la mer là-bas où passe 90 % de la production de pétrole iranienne. Et là, on pourrait avoir un débarquement amphibie de troupes américaines, pas sur les territoires continentaux de l'Iran, mais sur cette île-là, pour vraiment obtenir un genre de joker. C'est-à-dire, écoutez, là, on possède votre lieu de transit, vous n'aurez plus une scène des marchés mondiaux parce que vous ne pourrez plus exporter votre production énergétique et donc vous n'avez pas le choix de capituler. Mais je répète que ce sont deux escalades majeures. C'est pas clair que Donald Trump a la tolérance au risque suffisante en ce moment avec les midterms qui approchent pour faire ça.
Est-ce que le fait que les midterms approchent, d'un côté, comme tu le dis, c'est un gros risque, mais est-ce que, mettons qu'on le voit du sens contraire, ça pourrait faire que Trump soit pressé d'intervenir de façon plus marquée en envoyant des troupes?
Ah, mais ça, c'est un bon point parce qu'il y a une genre de frénésie de la Maison-Blanche en politique étrangère. On dirait qu'ils veulent faire 1000 affaires en même temps. C'est là on parle de l'Iran, mais en fin de semaine, l'autre sujet, c'était la lutte armée contre les cartels dans l'hémisphère ouest. Sinon, on parle de Cuba, donc ils veulent faire beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui est curieux avec cette guerre-là, c'est que c'est à peu près une des premières fois où les États-Unis s'engagent dans une guerre majeure sans soutien populaire. Puis on constate pas un effet de drapeau. Les Américains se disent pas, bon, on est en guerre, donc on va passer outre nos différences républicains et démocrates, puis on va soutenir le président. Donc, c'est un vrai problème politique pour lui, parce que c'est pas une opération populaire. Puis on sait qu'aux États-Unis, le principal enjeu, c'est à peu près toujours l'économie. Donald Trump n'a pas rempli ses promesses à ce niveau-là. Et s'il se rend aux midterms avec un prix à la pompe très, très, très important, ça va certainement lui nuire, surtout si les Américains ne comprennent pas pourquoi on fait ça en d'entrée de jeu.
Trump, qui parle de lever des sanctions liées au pétrole qui avaient été imposées à la Russie après l'invasion en Ukraine. La stratégie derrière ça est simple, c'est de dire, c'est d'augmenter en fait l'offre en pétrole. Donc, pour les Américains, regardez, grâce à ce move-là que je fais, vous allez payer moins cher. Ça va venir contrebalancer un peu ce qui se passe en Iran. Mais à qui ça profiterait le plus, ça? Aux Américains ou à la Russie?
Ah, mais depuis que la guerre a été lancée, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, il y a un grand vainqueur de cette histoire-là, c'est Vladimir Poutine. Pour plusieurs raisons. Parce que là, désormais, Donald Trump lui permet à l'Inde de racheter du pétrole russe. Donc, on donne plus de recettes au régime russe. Si les cours du pétrole augmentent, le régime en Russie va avoir plus d'argent parce qu'il exporte beaucoup de pétrole pour financer sa guerre. Premier élément. Deuxième élément, les armes dont se servent les Américains pour défendre leur base au Moyen-Orient et dont les monarchies du Golfe se servent, c'est les mêmes armes que les Ukrainiens dont les Ukrainiens auraient besoin pour se défendre de la Russie. Donc, aussi bien d'un point de vue économique que militaire, Vladimir Poutine, il doit être heureux comme un enfant le jour de Noël en ce moment. Bon, cela étant dit, je ne veux pas trop être caricatural, si le régime en Iran tombait, la Russie perdrait un pied à terre au Moyen-Orient assez important. Mais néanmoins, ça profite clairement à la Russie en ce moment, peut-être plus que à n'importe qui.
Mais d'ailleurs, Trump et Poutine qui se sont parlé dans les dernières heures, ça, c'est une autre mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. T'sais. On doit se demander, OK, qu'est-ce qui s'est dit là-dedans? Là, parce qu'on sait que Trump va vouloir avoir l'air d'un gagnant, peu importe ce qui arrive. On sait que Vladimir Poutine, c'est la même affaire de son bord. On dirait que je me demande vraiment qu'est-ce qu'il a pu se dire entre les deux hommes, entre Trump et Poutine.
Mais chose est certaine, t'sais, la relation entre Trump et Poutine depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, c'est une relation un peu d'amour-haine. Et on ne sait jamais s'ils sont dans une bonne phase ou dans une mauvaise phase. Ce qu'on sait toutefois, c'est que Trump a un genre d'instinct, contrairement à d'autres présidents américains, d'autres leaders occidentaux, où il ne se méfie pas instinctivement de Donald Trump. Je pense que de Vladimir Poutine. Je pense que Trump, sincèrement, ne comprend pas pour qu'on juge que c'est Vladimir Poutine le grand méchant loup de la planète. Et au niveau de la guerre en Ukraine, il est persuadé que c'est au moins en partie la faute des Ukrainiens. Et je suis persuadé aussi que la Maison-Blanche actuelle pense que ce sont les Ukrainiens qui font blocage dans les pourparlers pour la paix. Pourquoi? Parce que le dernier enjeu qu'il reste, apparemment, c'est les territoires. La Russie veut que l'Ukraine cède des territoires qu'elle n'a pas conquis. Les Ukrainiens disent non. Et je pense qu'au niveau de la Maison-Blanche, on commence à être un peu lassé de ce refus ukrainien-là.
J'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais quasiment pas le choix de bifurquer un peu vers Cuba parce qu'il y a des avancées, puis on dirait qu'on avait comme un peu délaissé ce qui se passait là avec l'ampleur de ce qui se passe du côté du Moyen-Orient. On en est où présentement là, du côté de Cuba? Combien de temps avant que ça tombe?
Mais là, ça dépend de ce qu'on dit. Donald Trump dit que Cuba est prête à tomber. Ce qui se passe à Cuba, c'est assez simple en ce moment. On est en train d'étrangler économiquement l'île parce qu'on l'empêche de s'approvisionner en énergie en raison du Venezuela. On fait pression sur le Mexique. Donc, on a une population civile qui souffre. On a un régime qui est très faible. Mais le gros problème à Cuba, c'est qu'on n'a pas d'opposition organisée. On n'a pas de société civile. On n'a pas de leader en remplacement. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que les Américains parviennent à faire suffisamment souffrir les Cubains pour que le régime n'ait pas le choix d'aller chercher une porte de sortie, un accord préférentiel, la levée de certaines relations internationales, des choses comme ça. Ça, on verra, mais pour l'instant, on n'a que des signaux, même pas diplomatiques, là. On en parle à coups de tweets, il n'y a pas eu un effort concerté, mais on disait que Marco Rubio allait peut-être s'y rendre bientôt. On verra ce qui va en sortir, mais on va devoir suivre ça attentivement.
Georges, merci, analyste politique. Un gros merci pour ton temps ce matin.
À bientôt, Max.
Au retour, petit tour des nouvelles et... pas des sports, on vient d'en faire. Un petit tour des nouvelles et Pascal Cévé qui va venir faire son tour.
Le